Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, il est bien 17h02, hein. Vous n'êtes pas trompés, hein. Vous retrouverez bien votre émission sportive classique entre 19h et 20h30 tout à l'heure. Mais la semaine dernière, on a eu un gros bug malheureusement technique, hein, qui nous avait empêché d'être en direct, donc on voulait vous présenter toutes nos excuses et on se devait de vous présenter donc cette émission également de la semaine dernière. Donc deux émissions pour le prix d'une, hein, pour cette dernière de la saison, donc vous allez être particulièrement gâtés. On va revenir naturellement sur cette belle semaine olympique et notamment donc la soirée des champions et championnes olympiques que Vanessa a vécue la semaine dernière à l'occasion du 23 juin. On aura un immense journal des sports sur la quinzaine avec Alexandre. Et puis on va avoir notre invité qui va nous servir de grand témoin qu'on avait rencontré donc au forum du comité français pour le fair play au mois de mai. C'est Jean-Pierre Maldois. Bonsoir Jean-Pierre, ravi et merci de vous accueillir.
Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Oui.
Vice-président de la Fédération française de savates et de sports associés, c'est ça, hein ?
Savate boxe française et discipline associée, c'est
d'accord.
Bien ça.
Depuis combien de temps ?
Depuis le mois de novembre dernier. Alors, vice-président depuis le mois de décembre, puisque les délégations au sein du comité directeur ont été attribuées au premier comité directeur qui a eu lieu le 21 décembre 2024.
Et pourquoi ce sport depuis très longtemps ? Pourquoi la boxe française ?
Alors, la boxe française,
vous,
j'ai pas commencé par la boxe française.
Ah, d'accord.
Alors, j'ai commencé par le karaté.
Ah, oui.
Il n'y avait pas de boxe française beaucoup, d'ailleurs, à cette époque-là, en tout cas près de chez moi. Et puis, quand j'ai fait mes études et que j'ai été en STAPS, il n'y avait pas karaté qui était représenté. Alors, comme j'étais arrivé à haut niveau, j'ai pu garder karaté pendant 2 ans, mais après, il a fallu choisir un autre sport. Et tant mieux, parce que j'ai découvert à ce moment-là vraiment la SAD boxe française et ça a été comme un coup de foudre, à la fois pugilistique, sémantique, enfin bref quoi. C'était vraiment ce qui se rapprochait le plus et qui était le plus prompt pour moi à pratiquer pour pouvoir préparer le CAPEPS.
Très bien, donc c'est la tradition de cette émission, on pénétrera dans les coulisses de votre sport, hein. On essaiera d'en savoir un peu plus sur ce sport qui a été quand même dans le passé sport olympique, qui malheureusement ne l'est plus.
Oui, il a même été sport national en 1900.
Oui.
La salle de boxe française est quand même née en 1830, hein, avec même des prémices avant. Donc c'est quand même un sport, un des seuls sports qui a été créé en France, codifié. Qui a été porté par des grands noms de républicains, beaucoup de grands noms d'ailleurs qui ont laissé leur vie lors des guerres pour représenter la France aussi, enfin pour les.
Et je crois que le baron de Pierre Coubertin a pratiqué ce sport. Hein.
Oui, bien sûr, oui. Oui. Entre autres, beaucoup de bourgeois de l'époque, d'anciens nobles. On pratiquait tout comme des gars de la rue, puisque la salle de boxe française a cette particularité d'avoir à la fois être né dans la rue et avoir grandi autant dans des salles, de la haute bourgeoisie que dans les faubourgs moins fréquentables de la ville de Paris notamment.
Très bien, je veux saluer Vanessa. Ça va Vanessa ?
T'as très
passé
bien,
une belle
Philippe.
Semaine olympique. Hein.
Oh oui, une
on
super
a beaucoup
semaine.
De choses à dire puis à raconter. Alors, Jean-Pierre, c'est vrai qu'il y a un an, on était en plein dans les festivités de la flamme olympique. Hein. On s'apprêtait à vivre un été qui nous a tous marqués. Hein. Été olympique et paralympique, on l'a accompagné avec les journalistes, les volontaires. C'est vrai que ça nous a marqués et on va fêter déjà les un an. Comment vous avez vécu cette époque ?
C'était formidable, sachant que pour moi, ce n'était pas ma première expérience olympique,
oui.
Puisque j'ai été invité en 92 par le ministère à Barcelone en tant qu'athlète de haut niveau. Et j'ai pu être invité dans des conditions exceptionnelles, puisque j'étais hébergé avec les athlètes. Donc je suis allé voir beaucoup, beaucoup d'épreuves en étant à côté vraiment des athlètes, donc de vivre vraiment au cœur des Jeux. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. D'ailleurs, en 96 à Atlanta, j'ai organisé un voyage avec des jeunes issus des quartiers pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi vivre ça, parce que c'était quand même assez exceptionnel. Donc ça m'a rappelé un petit peu tout ça. Le seul regret, et je suis pas le seul à l'avoir au sein de la communauté de la salle de boxe française, c'est qu'on n'ait pas été invité comme sport au moins de démonstration, comme
Ah
on a
oui.
pu l'être en 1924.
Alors Vanessa, justement, ça a été une sacrée semaine. Alors on va faire un petit peu l'historique hein, de cette fabuleuse semaine. On va d'abord rappeler que le 19 juin, Amélie Oudéa-Castéra est devenue présidente du CNOSF. Hein, c'était la seule donc candidate en lice. C'est bien qu'une ancienne ministre redevienne et devienne présidente du CNOSF.
Oui, c'est
Oui,
très bien parce qu'elle
elle connaît tous les rouages. Hein.
connaît tous les rouages. Je l'ai encore vue ce matin intervenir puisque j'étais à l'INSEP pour la sixième convention de lutte contre les violences dans le sport. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît son sujet, qui connaît les fédérations, qui a eu comment dire le portefeuille du ministère de la jeunesse et des sports, donc qui connaît effectivement tous les rouages, toutes les personnes importantes qu'il faut absolument consulter pour pouvoir faire avancer des décisions. Non, pour moi c'est pour moi et je parle au nom aussi de mon président, c'est une très bonne chose pour nous, oui.
Alors ensuite, le 23 juin, c'était la date qui avait été retenue, hein, puisque c'est symbolique, Kirsty Coventry a pris officiellement ses fonctions à la tête du CIO. On en avait parlé en mars dernier, donc à l'occasion de son élection. Donc la passation de pouvoir s'est faite la semaine dernière avec Thomas Barr. Et puis la Vasque olympique est revenue. Elle est revenue dans le jardin des Tuileries depuis le 21 juin. On pourra la voir s'élever. Donc, ça sera à partir de 21h30 au mois de juillet, 22h30, pardon, au mois de juillet, 21h30 au mois d'août et 20h30 au mois de septembre. Et puis, cette vasque, elle va revenir parce que justement, on a annoncé, et Paris 2024 va s'arrêter dans quelques heures, hein, ça va être officiel, l'association va officiellement donc disparaître ce soir à 0h. La Vasque, elle est payée grâce aux bénéfices des 76 millions d'euros dégagés par Paris 2024. Ça a été annoncé, hein, on nous avait annoncé 26,8 millions lors du dernier conseil d'administration auquel nous avions assisté hein, en décembre dernier avec Tony Estanguet. Finalement, le bénéfice, il est encore plus important. Donc grâce à ça, la Vasque, on l'aura tous les 3 ans, hein, jusqu'à donc 2028, jusqu'au JO de 2028. Mais il va aussi y avoir ce bénéfice qui va être partagé entre le CNOSF et l'ANS pour des actions dans le sport. C'est une bonne chose, ça va compenser en partie la réduction du budget des sports de
Oui, voilà,
2025.
c'est ce que j'allais dire. Bon, on l'a aperçu aussi à la fête de la musique,
Oui,
d'ailleurs,
oui,
la
oui,
Vasque.
oui.
Donc
Bah, c'est là que c'est. Ouais.
voilà, au-delà du sport, on va pouvoir, comment dire, bénéficier de. Bah, c'est quand même une œuvre d'art, hein, et ça va tirer du tourisme
Oui,
aussi,
bien sûr.
fatalement. Donc, c'est une très, très bonne chose. Maintenant, effectivement, c'est une bonne nouvelle, ces bénéfices, surtout, effectivement, si tout le mouvement sportif qui a été quand même un petit peu maltraité au niveau du budget national, en tout cas tel qu'il a été annoncé, bah, ça a peut-être compensé. C'est une très bonne chose parce qu'effectivement, le mouvement sportif a besoin de moyens pour pouvoir assurer sa mission.
Oui, et vous en pensez quoi du rapport de la Cour des comptes, donc 6 milliards d'euros qui ont été dépensés sur l'argent public pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, de toute façon, c'est classique, l'argent public, à chaque Jeux Olympiques, l'État dépense beaucoup d'argent.
Oui, alors bon, moi je ne suis pas contre les
Oui,
Jeux Olympiques, c'est
au
compliqué.
contraire.
Hein.
Ouais.
Je connais beaucoup de gens hein, qui le sont, et même des gens que je peux croiser dans mon travail. Voilà, parce que pour eux, c'est pas normal que tous les sports ne soient pas représentés, même si matériellement c'est impossible de le faire. Maintenant, ça fait rayonner quand même nos athlètes.
Oui, bien sûr.
Ça augmente les possibilités de performance, de pouvoir être chez soi quand même, et on a vu les résultats. Les Français et les Françaises ont vécu des moments formidables ensemble. Ça permet de faire plus France quand même à travers, même si c'est qu'à un moment, il n'y a quand même que le sport qui permet ça.
Absolument.
En 98 ou en 2018, quand on a gagné la coupe du Monde, ouais. Je veux dire, on a vu des Français de tous horizons être ensemble. Donc ça fait du bien un petit peu quand même. C'est quand même un bon bol d'air, j'ai envie de dire, à chaque fois. Malheureusement, ça ne dure pas assez longtemps. Quoi,
bah oui, tout. Alors la vasque, on va dire, elle sera là quand même jusqu'au 14 septembre, hein, puisque ça a été décrété journée du sport hein,
oui,
chaque année, le 14 septembre. Et puis il y aura des commémorations quand même pour accompagner les anniversaires. Il est prévu quelque chose le 26 juillet pour fêter donc les un an de la cérémonie
la fête de la Seine, oui,
d'ouverture des Jeux, aussi pour les Paralympiques le 28 août. Et puis le Tour de France aussi, hein, dernière étape qui va passer trois fois par Montmartre, qui va donner un petit peu plus de piment pour la dernière étape et qui va nous rappeler finalement le beau parcours olympique qu'on a vécu pour le vélo. Donc ça va être sympa ces cérémonies de fête.
Oui, et puis bon, il y a tout un projet derrière, hein, l'héritage des Jeux.
Oui.
Je veux dire, ça quand même fait prendre conscience à beaucoup de gens que le sport, c'était pas simplement de la performance, c'était pas simplement du jeu, du plaisir. C'était aussi quelque chose qui pouvait marquer socialement beaucoup plus largement. Et le fait d'avoir ces nouveaux rendez-vous annuels vont nous permettre, une fois de plus, de mettre en évidence à la fois le travail qui est fait sur le terrain, tous les milliers, les dizaines, je dirais peut-être même les centaines de milliers de bénévoles qui œuvrent dans l'ombre, tous les athlètes, parce qu'on connaît les athlètes au plus haut niveau, mais il y a beaucoup d'athlètes amateurs qui chaque semaine mouillent le maillot pour pouvoir représenter leur club, leur communauté. Donc c'est vraiment un parcours collectif qui peut résonner à plus grande échelle, comme on a vu au cours des Jeux Olympiques.
Oui, et puis en plus d'admirer la vasque, on va pouvoir aller s'initier aux Jeux de la natation, puisqu'il y aura le traditionnel Paris-Plage, hein, donc ça sera je crois le 5 juillet jusqu'au 31 août. Alors Vanessa, est-ce que toi qui as assisté à la conférence de presse, d'abord est-ce que Madame Hidalgo va aussi plonger dans la Seine comme ça avait été le cas pour... avant les JO.
Tout à fait, Philippe, ce sera le 5 juillet, donc samedi là, de cette semaine, le 5 juillet. Le 5 et 6 juillet, donc ce week-end, il y aura aussi l'Open Swim Star, hein, qui va être un tournoi de natation. Et puis, été sportif aussi sur le plan international, avec les championnats du monde de badminton du 25 au 30 août, et aussi les internationaux de France de squash à peu près sur les mêmes dates. Il y aura ça, et puis il y aura aussi de nombreuses animations sportives, comme le Paris Beach Volley Pro Tour, et tout un tas d'animations sportives pour tout un chacun.
C'est bien,
justement.
On pourra donc accompagner l'anniversaire des Jeux et des JO.
Oui, tout à fait. Le retour donc des statues dorées des femmes importantes de notre histoire.
Alors, où est-ce qu'on va pouvoir se baigner sur les trois sites à Paris? C'est important. Hein.
Trois nouveaux lieux. Ouais. Donc, c'était l'héritage promis et puis les baignades promis déjà depuis un peu plus d'un an. Donc, il y a trois lieux. Il y aura à Bercy, dans le 12e.
Ah, c'est pas loin d'ici, on peut y aller.
Voilà. Il y aura à Paris-Centre au Bras-Marie.
Oui, donc c'est Lucien Louis, je crois. Hein. C'est ça.
Exactement. Oui. Et puis à Grenelle, donc à Paris 15e. Ceci en plus des traditionnels bassins de la Villette et Canal Saint-Martin.
Oui.
Et puis juste à côté,
dans
ici
la Marne
aussi, dans la Marne, exactement.
Le pont là-bas.
Exactement, dans la Marne. Et puis il y aura aussi de nombreuses animations et aussi à la Halle Carpentier. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans le 13e, juste à côté.
Une semaine d'escrime, je crois.
Puis une piscine aménagée aussi, comme chaque année. Donc de nombreux points pour aller se rafraîchir.
Et pour fêter donc l'anniversaire de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, puisque je l'ai dit, Paris 2024 va s'arrêter officiellement dans quelques heures, comme France 98 et comme Albertville 92 avant. C'est bien, comme ça, de toutes les manifestations sportives et physiques parallèles.
Ben oui, parce que ça permet à beaucoup de jeunes qui ne partent pas en vacances, notamment, d'en profiter.
Oui.
Ça, c'est une chose. Moi, en plus, avec ces fortes chaleurs, donc tout ce qui est baignade, tout ce qui est eau, c'est forcément bienvenu. Maintenant, voilà, c'est aussi bien faire poursuivre un petit peu le fait d'avoir accueilli les Jeux. C'était pas simplement 2024, en fin de compte.
Oui.
Ça va revenir, même si c'est ponctuel.
Surtout que c'est le premier anniversaire. Peut-être un peu, ça peut peut-être se tasser après. Voilà.
Oui,
l'an
oui,
prochain, bah, en plein mondial de foot, peut-être qu'on en parlera un petit peu moins. Non, mais je dis ça comme ça.
Oui, alors ouais. Bon, c'est oui. aussi formidable. Ouais, moi, ouais. J'adore le foot, donc
ouais, ouais.
Voilà. Oui. Non. Ben là, ça va être encore un grand moment à vivre pour tout le monde. Voilà.
Mais c'est bien jusqu'en 2028 de se remémorer qu'on a eu une période inoubliable, fabuleuse, à travers cet été olympique et paralympique.
Oui,
et
puis on remettra ça en 2030, hein, n'oublions
oui,
pas.
Donc, oui,
les Jeux d'hiver. Des Jeux d'hiver, donc c'est quand même quelque chose qui va au-delà de 2028, de toute façon, être toujours d'actualité.
Et comme l'a dit Vanessa, il y aura le badminton, des championnats du monde, il y a eu des paramondiaux d'athlétisme il y a donc 2 ans, donc ça prouve qu'en plus la France organise des manifestations sportives.
Oui, souvent, beaucoup, tous les ans, on peut regarder le calendrier. Il y a, alors, au-delà des sports phares qui sont médiatisés, il y a des compétitions au niveau international qui sont organisées tous les ans en France, bien évidemment. Oui.
Alors, je veux saluer Alexandre qui vient d'arriver. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ça va.
Pleine forme, tu as ton micro qui n'est pas branché. Donc, voilà. Donc, on va. Ça, tu m'entends, Alexandre ? Non, je t'entends pas. Bon, on verra ça tout à l'heure avec Alexandre. Et puis, il est avec nous. C'est notre invité surprise. Bonsoir, tu vas te présenter.
Bah, bonsoir à tous. Oui, moi, c'est Marius.
Voilà.
Je suis là juste pour
observer. Voilà.
Pour
alors, justement, toi, tu habites Paris. Ce qui vient de se dire, Marius, ce qui vient de se dire, c'est bien, c'est sympa, toi, Parisien, de pouvoir pratiquer toutes ces activités sportives.
Eh ben oui, franchement c'est super. Hein. Moi, en plus, vous parliez tout à l'heure des baignades, etc. Moi, j'habite dans le 15e, donc je serais vraiment juste à côté. Donc j'ai envie de tester ça directement. Moi, je pense que dès que ça ouvre, je vais y aller. Hein.
D'accord, ok. Et cette période olympique et paralympique que l'on commémore, est-ce que toi, l'amoureux du sport, qui a vécu, comment tu l'as vécu déjà l'été dernier ?
Bah moi, j'ai eu la chance de travailler justement dans ce milieu des Jeux Olympiques. J'ai travaillé au Stade de France, justement.
Ah bien ?
Ouais.
Commentaire ?
Donc non, pas commentaire, rien à voir, comme volontaire, exactement.
Oui, c'est ça que je
voulais
dire.
Ah, volontaire, oui, voilà, exactement. Et bah, donc,
j'étais sur les épreuves d'athlétisme ?
Exactement.
Ah bien.
Donc
bien,
j'étais
bien.
Vraiment au cœur de ces JO et franchement, c'était incroyable, la passion des gens, etc. Voilà. Moi, j'ai adoré.
Et donc, c'est bien qu'on soit dans la commémoration, surtout après le premier anniversaire, quoi.
Bah oui, en plus, voir cette vasque, etc., franchement, c'était incroyable. Quand moi, je suis allé la voir plusieurs fois, je vais aller la revoir... Franchement, non, c'est super.
Très bien. Alors, Jean-Pierre, donc, est-ce que l'héritage, finalement, il est respecté ? Pour l'instant, toutes les bonnes résolutions qu'on avait prises, le budget, il a été amputé, mais
voilà.
Par exemple, ce qu'on fait pour le handicap, on a vu que nos amis de Vivre FM ont dû disparaître, les subventions, donc, ont fait que, malheureusement, le manque de subventions ont fait que leur radio a donc été arrêté. Donc il y a quand même des choses qui n'avancent pas aussi rapidement qu'on l'aurait prévu.
Ben oui, non, il y a eu beaucoup d'annonces de fêtes qui ont créé en fin de compte des attentes importantes. Donc forcément, les attentes, c'est difficile de les combler tant elles sont fortes, tant aussi le sport permet de compenser d'autres choses dans la vie de chacun. Maintenant, rien que le budget qui est amputé à cette hauteur de plusieurs millions, c'est quand même pas très logique déjà à ce niveau-là. Maintenant, pour rebondir là sur le paralympisme, il y a aussi un travail qui est à faire de chacun. Nous, à la Fédération française de sandbox française, on a décidé de demander la délégation parasport et handisport cette année. C'est-à-dire de marquer un petit peu plus notre engagement par rapport à ces pratiquants, par rapport à ces athlètes. Et on a tout un programme qu'on veut absolument mettre en place. Et donc, on doit compenser un petit peu. Je pense que l'héritage, il faut aussi le prendre nous-mêmes en main, parce que l'État, il fera pas tout. On le sait. Il ne peut pas tout faire dans tous
les
domaines.
C'est ce qu'a dit la ministre. Hier, je l'écoutais dans Stade 2. C'est ce qu'elle a dit. Il va falloir trouver d'autres moyens.
Oui. Oui, d'autres moyens, ouais, c'est, d'autres ça moyens peut se privés, faire avec les gens.
Donc, ouais, c'est ça.
Ben, privé, ce serait bien aussi qu'ils privé.
Mais d'autres moyens ouais. que les données publiques, quoi.
Ben oui, parce qu'elles sont très limitées. Et puis, bon, dans un contexte international un peu incertain, forcément, c'est pas dans le sport que l'État a envie d'investir. Hein. Même si le sport n'a pas de frontières, même si parmi les missions du Comité international olympique, il y a ce vœu de paix. Aujourd'hui, les moyens attribués au sport sont nettement plus inférieurs que les moyens que rapporte le sport, en fait. Mm-hmm. Parce que le sport génère beaucoup, beaucoup d'argent.
Bah oui.
Dans tous les domaines, il suffirait
qu'on
ait 1% de ce que rapporte le sport pour pouvoir couvrir beaucoup de choses déjà. Mm-hmm. Maintenant, au-delà des financements publics, effectivement, ce serait bien que les privés, et il y en a quand même, hein, si on parle effectivement de parasport, de sport adapté, il y a quand même beaucoup de fondations privées qui ont décidé d'aider un peu. Nous, on compte contacter ces gens-là pour pouvoir nous aider à développer tout un programme pour le parasport et le sport adapté. Oui.
Alors, je crois qu'on a retrouvé Alexandre.
Oui, on m'a retrouvé. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Pleine forme.
Bon,
beaucoup de choses à raconter tout à l'heure.
Une belle quinzaine de sports.
Oui,
hein. Voilà.
Beaucoup de choses.
Ouais. Bon, Vanessa, donc, pour faire suite à tout ce qu'on vient de dire, donc Paris-Plage, bah, t'as essayé d'en savoir un peu plus avec deux fidèles de ce micro, Pierre Abadan, le maire adjoint des sports. De la ville de Paris, et puis Rail qui est l'ambassadeur. Dis-nous pourquoi Rail ?
Alors Rail, il est l'ambassadeur cette année parce que
c'est
le Brésil, exactement.
Oui. Très bien. Alors on va écouter donc d'abord Pierre Abadan, maire adjoint donc chargé des sports de la ville de Paris.
Bonjour Pierre Abadan. Aujourd'hui dans cette édition de Paris en scène, qu'est-ce qui va être un peu l'héritage des Jeux ? Qu'est-ce qui va peut-être rester s'il reste quelque chose de particulier ?
Il va rester énormément de choses des Jeux. D'abord, une programmation beaucoup plus ambitieuse et variée géographiquement et au niveau temporel. Cette programmation de Paris en scène, elle démarre à la première levée de la vasque le 21 juin pour la fête de la musique. Et elle va s'étendre jusqu'à la fête du sport le 14 septembre et au-delà de ça, jusqu'à la course des cafés qui aura lieu le 21 septembre. Donc durant toute cette période, il va y avoir, comme pendant les Jeux, beaucoup de sites, un peu comme les sites de festivités qu'on avait pendant les Jeux, qui vont mêler programmation sportive et culturelle. Il va y avoir beaucoup d'animations sportives, beaucoup plus qu'on en avait par le passé. Et puis, il va y avoir des temps forts qui vont évidemment faire allusion aux Jeux. Je pense au 1 an, évidemment, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, au 1 an de la cérémonie des Jeux Paralympiques. Évidemment, le passage du Tour de France à Montmartre et tout un tas d'objets aussi qui vont être mis en place dans l'espace public progressivement pour à la fois nous rappeler ce qu'ont été non seulement les Jeux, leur réussite, mais la période de fête et de communion et de partage qu'ont été les Jeux de Paris. Et vous verrez progressivement dans les rues de Paris aussi des symboles des Jeux qui vont apparaître et qui sont amenés à rester pour de longues années.
Et en quoi justement cette baignade en scène peut-elle être l'affirmation de l'identité parisienne et à la fois du vivre ensemble ?
Alors vous l'avez dit et vous l'avez rappelé, c'est aussi peut-être l'héritage symbolique des Jeux que la baignade en scène, qui a profité aux athlètes, mais qui va à partir du 5 juillet profiter aux Parisiennes, aux Parisiens, mais aussi à tous celles et ceux qui voudront s'y baigner. C'est la Seine, c'est le symbole de Paris. D'abord, la ville s'est construite autour de Paris. Ensuite, c'est aussi le symbole de la liaison et entre les territoires. Voilà, la Seine, c'est un trait d'union entre les territoires qu'elle traverse. Et c'est le symbole de Paris, puisque c'est peut-être aussi l'un des endroits d'où on voit le mieux la diversité et la richesse patrimoniale de Paris. Et c'est pour ça qu'on l'avait choisi comme berceau de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc, évidemment, c'est un angle majeur. Et dans la dénomination de Paris en Seine, évidemment, on a voulu remettre la Seine au cœur du projet estival et de toutes les animations, événements et programmations culturelles et sportives qu'on va avoir durant tout l'été, qui sont tellement longues, vous avez vu qu'on n'a pas pu tout vous citer. Mais voilà, on va passer en tout cas un été festif et joyeux. Et c'est de ça dont on a besoin et dont les Parisiennes et Parisiens ou les gens qui viennent à Paris sont extrêmement demandeurs. Donc on est ravis de pouvoir leur offrir tout ça gratuitement pendant tout l'été.
Eh ben, c'est fabuleux, on va pouvoir bien en profiter hein, de cet anniversaire des Jeux olympiques et paralympiques. Bon, on va écouter maintenant quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Rai.
Bah, Rai, hein, je vais demander.
Une icône.
Bah oui, je vais demander s'il allait se baigner dans la Seine.
Alors,
réponse.
On écoute la réponse.
Bonjour Rai, allez-vous vous baigner dans la Seine? Et si oui, qu'est-ce que cela symbolise pour vous?
Bon, bien sûr que je vais, parce que depuis longtemps que j'attends, je n'ai pas eu l'occasion, il y a eu déjà des possibilités. Mais j'ai hâte, c'est depuis que je suis arrivé à Paris, comme je suis devenu aussi surtout un personnage de Paris, même quand je jouais, j'ai imaginé ça, et je crois maintenant que c'est une réalité, je vais me mettre. Et ce qui représente, je crois que c'est qu'aujourd'hui, c'est un symbole. Quand on parle de végétalisation de la ville, quand on parle de la forêt urbaine, c'est des exemples symboliques pour chercher de récupérer la Seine, la propriété de l'eau. Ça, c'est des choses qui peuvent servir aussi comme des exemples pour le monde, d'où on doit mettre, comme la maire a dit. C'est aussi non seulement quelque chose qui est bien pour la ville, que ça rend fiers les Parisiens, Mais aussi, c'est un acte politique aussi. Né? Quand on montre que la ville devient plus verte, que l'eau devient plus clean, je crois qu'on a besoin de ces exemples, surtout dans des villes symboliques comme Paris.
Voilà, vous avez entendu, hein? Rai, il va aller se baigner. Hein? Immense champion hein, qu'on a souvent l'occasion de rencontrer au Parc des Princes et puis sur Charletti, mais... immense monsieur. Hein.
Ah ben, il nous a fait rêver, ouais. Hein, forcément, en tant que joueur.
Et puis, très, toujours très disponible dans les interviews. Hein.
Exactement. Ah ouais. Et puis, il est resté comment dire, supporter de Paris et impliqué. On le voit assez régulièrement maintenant.
Avec le Paris FC.
Avec le Paris FC, mais avec Paris en règle générale, sur différents événements. Donc, c'est vraiment un ambassadeur de notre ville aujourd'hui.
Très bien. Alors... auparavant, il y a eu cette journée du 23 juin, cette soirée du 23 juin. Alors, 23 juin, c'est important parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, c'était la flamme olympique qui était présentée à la Sorbonne, puisque c'était la journée olympique. Il y a 3 ans, il y avait une grande manifestation qui avait été orchestrée et organisée au Stade de France. On y était justement pour fêter l'arrivée des Jeux deux ans après. Donc, le 23 juin, c'est toujours une petite journée symbolique et justement... Vanessa, la semaine dernière, lundi soir, dans une boîte de nuit bien connue, le Bridge Club.
Le Bridge Club,
il y
à
avait
côté de la Seine,
cette grande
justement.
Soirée. Ouais, donc c'était au pont Henri
Alexandre III.
Voilà. Ouais. Donc il y avait cette grande soirée qui a permis de rendre hommage à ces sportives et sportives 2024 qui nous ont fait rêver.
Donc tout à fait, cette soirée des champions organisée par le CNOSF. Avec de nombreux champions présents. Je pense à Enzo Lefort, aux frères Lebrun, Sarah Balzer, Isaura Tibus, Marie-Josée Pérec, évidemment. Il y avait la ministre des Sports.
Oui.
Il y avait évidemment Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle présidente du CNOSF. Et puis Jean-Charles Valadon aussi en tir à l'arc. Puis de nombreux autres champions, quelques fédérations, certains représentants donc, du sport français. Et donc on les a rencontrés.
Bien sûr, voilà. T'as beaucoup travaillé, t'as tendu le micro avec l'ensemble de nos confrères des radios et des télés. Hein, Paris FM est avec
nous.
Nous
étions aussi.
On
avait nos champions du monde qui étaient aussi millionnaires, notre président qui était présent aussi.
C'est bien. Bon, tu nous proposes qui en premier?
Alors, on va commencer par Sarah Balzer, hein, donc escrimeuse double médaillée Tokyo et Paris 2024.
Ouais.
On écoute.
L'événement est sold out, mais très souvent, en fait, l'escrime est beaucoup regardé. C'est un des sports les plus regardés durant les JO. C'est un des sports très appréciés. Donc c'est assez surprenant parce que du coup, on ne le voit que tous les 4 ans. Et beaucoup nous demandent, mais pourquoi est-ce qu'on le voit tous les 4 ans? J'ai pas la réponse. Mais j'espère qu'on va continuer de faire parler de ce sport qui est quand même très apprécié. C'est là où c'est le sport qui a ramené le plus de médailles aux JO depuis toujours. Donc il y a énormément de talent, énormément de champions et... Et voilà, on sait que c'est apprécié, donc autant le montrer et en parler.
Comment avez-vous vécu, Sarah, cette année post-olympique?
Bien, ça a été des hauts et des bas au début. C'est vrai que c'est pas facile quand un aussi grand projet s'arrête. Mais voilà, il faut déconstruire pour reconstruire et avancer vers un nouveau projet. Donc c'est des ajustements s'il y a besoin, c'est être aligné avec qui on est aujourd'hui et donc mettre en place ce qu'on a besoin. Et voilà, c'est une nouvelle page qui s'écrit avec beaucoup de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles forces et voilà.
Comment vous préparez-vous mentalement ?
Pour les compétitions ?
Oui.
Ah bah écoutez, ça dépend des compétitions, ça dépend dans quel état je suis. C'est, ça va être des respirations, ça va être de la pleine conscience, ça va être être dans le moment présent. C'est des outils qu'on a qui nous permettent, en fonction de comment on est, d'ajuster.
Voilà donc pour Sarah Balzer, l'interview suivante.
Donc ça va être Isaura Tibus, qu'on avait vu justement au forum de la santé mentale, qui avait intervenu. Puis là, on a
Et qui avait dit des choses très fortes. Hein.
Exactement. Ouais. Et justement, je vais poser quelques questions sur la gestion de son mental.
Très bien.
Bonsoir Isaura. Comment utilisez-vous la préparation mentale dans votre propre préparation ?
En fait, ça fait des années maintenant que je travaille avec une psychologue, Myriam Salmi. Je l'utilise forcément en tant qu'outil pour optimiser ma performance. Ma façon de voir l'escrime, comment je m'entraîne, comment mettre en place mon programme, mon objectif, mon projet de performance. Donc tout ça, on en discute. C'est vraiment pas que l'entraînement en fait qui compte. Il faut voir que c'est avec qui on s'entraîne, comment on s'entraîne, quelles sont nos ressources, et puis la gestion des émotions. On en parle peu parce que forcément, on doit s'améliorer physiquement, techniquement, tactiquement, mais il y a aussi toute cette gestion émotionnelle, la pression des compétitions, l'enchaînement des compétitions, l'intensité de ce milieu-là. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et puis aussi Myriam, c'était l'une des premières personnes à m'avoir dit qu'il fallait être aussi heureuse pour performer. Donc on parle aussi de ce qui est à côté.
Pensez-vous que la préparation mentale justement soit minorée dans votre discipline et dans le sport français en général ? Pensez-vous que la préparation mentale est minorée dans le sport français en général et aussi dans votre discipline ?
Je pense que on en parle de plus en plus de la préparation mentale, et je pense qu'il y a une évolution clairement sur ce qu'il y a à mettre en place. Après, je pense qu'il faut encore permettre aux athlètes de pouvoir avoir accès à la préparation mentale. Il y a pas mal de choses à faire. Là, après les Jeux, je pense qu'il y a des statistiques. On en discute avec le comité olympique. On en travaille beaucoup avec Axel Clerget, avec Camille Lacour, avec Amandine Bouchard, avec pas mal d'athlètes où on parle de comment permettre aux athlètes d'avoir accès à ça, parce que ce sont des dépenses on a pu peut-être avoir du budget avant les Jeux, mais après qu'est-ce qu'il en reste? Et souvent après ces compétitions compliquées, qu'est-ce qu'il arrive de ces athlètes, ceux qui ont réussi mais aussi ceux qui n'ont pas réussi? Donc il y a encore des discussions à faire autour de ça.
Et qui êtes-vous en dehors de l'athlète justement?
Qui suis-je? C'est une bonne question. Je pense que c'est la question de toute une vie. Mais en tout cas, je pense être une personne qui a des valeurs, qui s'intéresse à sa société. Pour moi, c'est très important le respect, l'empathie pour autrui. Donc en fait, c'est vrai qu'on est dans un milieu très compétitif. Mais en dehors de ça, je me bats pour, par exemple, l'égalité, la justice, des choses vraiment qui, je pense, sont vraiment nécessaires dans notre société à l'heure actuelle. Et puis, je suis aussi une femme caribéenne qui aime rentrer chez elle en vacances, voir être au soleil, danser, manger, m'amuser aussi. Donc voilà, je ne suis pas que cette athlète disciplinée qui veut avoir des objectifs et remplir et avoir des médailles, quoi.
C'est toujours des mots très forts, hein, d'Isaura. Elle n'est jamais personne indifférent. Hein.
Oui. Et puis elle a de l'expérience. Elle a vécu, comme elle l'avait dit d'ailleurs à cette conférence où on était ensemble, des moments vraiment de joie extrême, mais aussi des moments très difficiles. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand elle avait dit notamment que une fois qu'elle avait performé en tant qu'athlète en individuel, on l'avait sollicité pour faire la compète en équipe, mais qu'elle-même, elle savait qu'elle pouvait pas. Mmh. Elle était allée au bout. Elle avait tout donné. Et que dans son entourage, à ce moment-là, ça avait été mal pris. Et ça m'a marqué, parce que comment on peut mal prendre ça? Parce que l'athlète, si jamais elle y était allée, elle aurait mal performé. Forcément, puisqu'elle avait tout donné, elle le savait, elle, qu'elle ne pouvait plus. Mmh. Donc comment on ne peut pas être à l'écoute d'un athlète qui a performé? C'est super dur quand même de faire l'individuel, les sports où on fait l'individuel et le collectif derrière, même s'il y a une émulation dans le collectif. On peut pas comment dire en vouloir un athlète qui dit non, je vais en fait, si il y a différentes façons de voir les choses. Elle aurait très bien pu dire non, si j'y vais, je risque de faire perdre l'équipe en fin de compte, et ça, ils l'ont pas entendu en fait. Et je trouve que c'est quand même assez dur, parce que elle a tout pris contre elle à ce moment-là, alors que elle a sauvé l'équipe quelque part. Mm-hmm.
Troisième donc athlète
escrimeur toujours, donc Enzo toujours Lefort, triple médaillé olympique.
Photo en plus, hein. Allez, Enzo Lefort maintenant.
Bonjour Enzo. Bonjour. Ma question, considérez-vous que le fleuret est une arme masculine ou féminine?
Ah waouh, c'est une belle question. Il n'y a pas de genre dans le sport. Les deux genres sont représentés. Moi, j'ai toujours fait de l'escrime depuis que j'ai 5 ans. J'ai toujours fait de l'escrime avec les filles. On s'est entraîné avec les filles pendant longtemps à l'INSEP. On s'est entraîné avec les filles. C'était la mixité. Je pense que ça nous a amené énormément de choses, tant au fleuret homme qu'au fleuret féminin. Et je pense qu'on gagne à échanger ensemble. Et je pense qu'on progresse tous les deux.
Pourquoi vous avez choisi le fleuret?
Parce que j'ai commencé par le fleuret. Et ensuite, par la suite, j'ai fait de l'épée. Et en fait, le fleuret, ça collait tout simplement mieux à mon tempérament.
Et puis un petit mot sur cette année post-olympique.
C'est très bien déroulé pour moi. Le livre de Paris 2024 a été refermé. Je me suis concentré un peu plus sur ma famille, sur mon corps. J'ai pris le temps de me faire opérer et également sur mes autres projets de reconversion.
Merci beaucoup, Enzo Lefort.
Voilà pour Enzo Lefort, quatrième interview après donc ces personnalités de l'escrime qui, on l'a dit, est le sport qui rapporte le plus de médailles à chaque jeu.
Ils ont défilé, hein, ouais, ces nombreux champions. Bien et sûr. Puis, alors maintenant, on va passer au tir à l'arc avec Jean-Charles Valadon, le grand l'aîné des escrimeurs, déjà plusieurs fois médaillé. On va l'écouter tout de suite.
Tir à l'arc. Allez, on y va.
Notre archer.
Bonjour Jean-Charles Valadon, on est ici à la soirée des champions, un an après les Jeux. Je me demandais, le tir à l'arc ne bénéficie-t-il pas d'un éclairage seulement pendant les Jeux? Et comment vous êtes-vous mis au tir à l'arc?
Alors moi, je me suis mis au tir à l'arc il y a très longtemps maintenant, parce que ça fait bientôt 30 ans que j'en fais. Petit sport qui était pratiqué, où il y avait un club dans le petit village à côté de chez moi, mon petit village natal de Boussière, et le village de Torp juste à côté. J'étais dans une période entre 6-8 ans d'essai de tous les sports, le foot, canoë, puis j'en suis arrivé au tir à l'arc, et ça reprenait beaucoup de valeurs et de choses que j'aime, comme l'utilisation d'une arme de jet, pouvoir pratiquer en individuel ou par équipe, et en fait la mayonnaise a vite pris, et c'est comme ça que ça a démarré.
Et justement, ne pensez-vous pas que le tir à l'arc bénéficie seulement d'un éclairage pendant les Jeux?
Aujourd'hui, si, c'est un petit sport qui est confidentiel. Donc voilà, on ne bénéficie pas d'une exposition médiatique énorme comme le foot tout au long des jours qui passent. Mais une fois tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. Et là, on est sous le feu des projecteurs. Donc il faut savoir en jouer, il faut savoir s'en servir. Et c'est ce qui nous permet, à l'échelle de notre sport, de rayonner du mieux qu'on peut. Et en plus, quand on réussit les Jeux comme on a fait ici avec 2 médailles pour le tir à l'arc, ça nous permet de nous faire connaître petit à petit.
Et justement, vous le disiez, vous avez pratiqué plusieurs sports avant de choisir le tir à l'arc. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir le tir à l'arc?
C'est vraiment ça reprenait un peu ce que j'aimais. Il y a des choses que j'ai pas aimé du tout le foot. J'ai fait du foot et ça me plaisait pas. C'est-à-dire, chacun ses trucs, chacun ses ressentis. J'ai fait de l'escalade, de l'escrime, et c'est l'ambiance du club, ces choses-là qui prenaient pas forcément. Puis quand j'ai essayé le tir à l'arc, en fait, ça a tout de suite pris. Et c'est l'ambiance chaleureuse qu'il y avait dans ce club-là, l'esprit général de la famille du tir à l'arc. Et vraiment, moi, j'étais très axé un peu tout ce qui était château fort, utilisation d'une arme, et le fait d'avoir une arme de jet dans les mains, qu'on puisse s'en servir sportivement, m'a beaucoup plu.
Et justement, que pensez-vous de la chasse à l'arc, et la pratiquez-vous?
Oui, aujourd'hui, moi, je fais partie de la Fédération française des chasseurs à l'arc, la FFCA. Je suis administrateur. Et aujourd'hui, cette année, on fêtait nos 30 ans de législation en France. Et ça fait partie de mes hobbies, de mes passions. Et c'est ce qui fait partie un peu de mon parallèle. Donc la semaine, je suis à l'entraînement à l'INSEP, en compète à l'autre bout du monde quand il y en a. Et quand j'ai un petit moment pour m'évader, je vais me mettre au fin fond de mes bois, le long d'un champ de maïs ou de champ de blé, pour essayer de prélever un sanglier.
Et votre meilleur souvenir des Jeux?
Le meilleur souvenir, en fait, les Jeux restent un souvenir incroyable. Après, un souvenir qui est merveilleux, c'est le moment où, à 300 mètres d'ici, on est monté sur le podium olympique en nous mettant une médaille d'argent autour du cou par équipe. Donc on l'a partagé avec deux de mes collègues, Baptiste et Thomas, et voilà, ça reste un moment inoubliable.
Quelle fraîcheur, tous les athlètes.
Oui, c'est marrant parce qu'il me rappelle Sébastien Flûte.
Oui, 92.
Oui, 92. Qui a été le premier, en fin de compte, à faire vraiment émerger aux yeux des Français le tir à l'arc en France. Et il avait la même fraîcheur, en fait.
Allez, cinquième interview.
Et puis, on n'oubliera pas aussi la médaille de Lisa Barbelin, chez les femmes, première médaille de bronze.
Bon, la suite, c'est quoi, cinquième interview?
La suite, c'est Sandrine Ruda, donc notre basketteuse. Exactement.
Allez, on y va, Sandrine Ruda.
Bonjour Sandrine Gruda. Bonjour. Avez-vous été initiée au basket par la formation scolaire? Et à partir de là, quelle a été, si oui ou non, quelle a été votre motivation pour pratiquer ce sport?
Non, absolument pas. Je n'ai pas été initiée par la formation scolaire. Donc ça a été effectivement une démarche plutôt personnelle. Et de fil en aiguille, je suis devenue ce que je suis devenue.
Et à partir de là, comment avez-vous développé vos talents?
Comment ai-je développé mes talents? Ben, force d'entraînement. Alors j'avais quand même de belles prédispositions parce que mon père était lui-même un basketteur professionnel. Mais enfin, c'est par la force du travail.
Et enfin, considérez-vous que le basket féminin est traité de la même manière que le basket masculin?
Vaste sujet. Mais il y a forcément une différence entre le basket féminin et masculin. Maintenant, je pense que l'écart est moins important aujourd'hui.
Voilà pour Sandrine Gruda. Hein. Donc, bon, ce qui nous fera penser tout à l'heure, il en parlera, Alexandre à la quatrième place de nos Bleus hier dans le championnat d'Europe.
Hein. Oui.
Un peu décevant par rapport à d'habitude, mais enfin bon, c'est comme ça.
Ça s'est joué de peu.
Ouais, ouais.
Ensuite, grande star du sport français, Marie-Josée Pierrec, bah aussi
oui,
était présente.
L'immense Marie-Jo. Voilà. La crème Marie-Jo. Quelle gentillesse.
On va l'écouter.
On y va.
Écoutez, moi, je dirais beaucoup d'émotions. D'ailleurs, hier soir, j'ai failli venir, mais j'avais autre chose à fêter parce que l'un de mes coachs a eu 75 ans, donc on a voulu lui faire plaisir. Donc j'ai dû faire un choix qui était très difficile à faire parce que j'avais vraiment envie de revivre ces émotions-là. C'est quelque chose qui va rester gravé à tout jamais. Enfin, pour moi, c'est historique. De plus, moi, je suis guadeloupéenne. Avec Teddy Riner, qui est guadeloupéen, c'était fabuleux. Donc, et puis, je trouve que c'est un cadeau, c'est un honneur tellement incroyable. J'ai été touchée. Enfin, j'ai vécu des jeux derrière. Ben, formidable, il y avait beaucoup de joie, j'avais envie d'être partout parce que je voulais suivre tous les athlètes, alors forcément c'était pas possible, mais j'ai couru à droite, à gauche, et puis je pense que j'étais comme tout le monde, j'étais comme toutes les Françaises, j'étais heureuse, voilà, et je le suis encore.
Vous avez une nostalgie des Jeux, on vous sent encore ému un an.
Oui, un peu quand même, mais je pense qu'on est tous pareils. Parce qu'en fait, on se retrouve là, à côté du pont. On n'est pas loin de, des jardins. Donc forcément. Et puis, de fêter les athlètes, je trouve que là aussi, c'est un beau geste de le faire en dehors du CNO. Ça aussi, je trouve que c'est un beau point. De fêter les athlètes en dehors de la Maison de France, je trouve ça bien.
Selon vous, comment l'héritage de ces Jeux Olympiques de Paris peut perdurer au fil des ans?
Mais je pense que c'est par des actions menées dans les écoles, menées dans les collèges, avec les clubs, avec tous ces sportifs, faire que la population, qu'elle soit plus active, qu'elle fasse plus de sport, qu'il y ait plus d'organisation. Que notre nation, qu'elle soit sportive, quoi. Voilà.
Justement, on voit beaucoup d'athlètes français qui partent là où sont traînés aux États-Unis. Est-ce que vous n'avez pas un regret, justement, qui ne reste pas en France? Vous qui avez connu ça aussi.
Alors, moi, je ne vais surtout pas m'aventurer, en fait, là-dessus, parce que je pense que j'ai donné le là, en fait, sur cette partie-là. Je pense que s'ils partent, c'est parce que je pense que lorsqu'on fait du sport de haut niveau, on a besoin d'aller se confronter au meilleur, d'aller découvrir, de comprendre ce que font les autres pour progresser. Donc, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. On a suffisamment de sportifs, en fait, qui restent pour faire en sorte que cet héritage perdure. Voilà.
Voilà, immense championne. Hein. Et quelle humilité à chaque fois qu'on la rencontre. C'est un plaisir. Hein. On dit que c'est une crème parce que quelle humilité.
Bah, moi, j'ai eu la chance d'être logé au même endroit donc, en 92 et donc d'être aux premières loges quand elle a gagné ses titres et puis même d'être à la fête, invité à la fête derrière. Donc vraiment, j'ai découvert quelqu'un vraiment d'humble.
Une gentillesse.
Très gentille. Ah ouais. Et je suis content parce que dans la ville où j'ai mon club, à Colombes, vendredi dernier, un gymnase a été inauguré à son nom.
D'accord.
Et elle était présente d'ailleurs. Mmh. Donc vraiment, quoi, les gens n'oublient pas. Et parce que des athlètes comme elle, il n'y en a pas beaucoup.
Oui. Vanessa, la suite.
Et donc, il y avait aussi les frères Lebrun qui étaient présents. Oui. On va les écouter.
Ah bah oui, parfait, les frères Lebrun. Allez, on y va.
En individuel, Ouais, exactement, non, une belle semaine. On aurait aimé aller chercher un titre sur les deux finales que j'ai jouées, mais une semaine positive. Et non, ça fait plaisir d'avoir eu ce niveau-là durant cette semaine. Perdre contre Calderano, vu le niveau qu'il a en ce moment, c'est pas facile d'aller chercher, mais je pense que j'ai réussi à le titiller, à avoir des occasions pour aller chercher le match. Donc, non, c'est positif pour la finale de pro cette semaine et après le grand smash à Las Vegas.
Quand on vous dit les JO de Paris, c'est quoi les images qui vous viennent en tête?
Pour moi, la première, c'est le Club France. Le moment des célébrations, tout ce qu'on a vécu après la médaille, c'était quelque chose de fort. Et puis, ouais, l'arrivée dans le village, la découverte du village, tout ça, c'était quelque chose d'incroyable. Ouais, comme a dit Alex, l'arrivée au village, c'était dingue, on découvre tout ça, on profite le premier jour de tout ce qui peut y avoir au village, et puis le moment de la médaille qui a duré un petit peu longtemps en par équipe, comme il dit, la soirée de cette médaille où d'abord il y a l'émotion de la médaille partagée avec la famille, tout le public, les amis, et puis après le Club France, toutes les célébrations avec tout le public, c'était vraiment, vraiment sympa.
Vous attendiez justement un tel changement de notoriété, une nouvelle dimension après les JO?
Il y avait déjà un petit engouement avant les JO, par je pense notre histoire de famille, deux frères qui allaient faire les JO aussi jeunes, mais on ne s'attendait pas à ça, forcément ça a pris une ampleur inattendue, mais on savait que si on performait ça pouvait créer de la notoriété. On ne peut pas dire qu'on s'y était préparé parce que c'était impensable que ça soit comme ça, mais on savait que ça pouvait un petit peu continuer à se développer. Et c'était surtout, nous, dans notre état d'esprit, c'était aussi développer le ping en France, l'image du ping avec de plus en plus de joueurs, ce qui est le cas aujourd'hui. Si on peut essayer de contribuer à ça, on est très fiers.
C'est quoi le truc le plus sympa que vous avez kiffé hors ping, depuis justement tous ces changements? Le truc qui vous a fait le plus plaisir de faire?
Je pense c'est les choses un petit peu différentes. On a pu faire des jeux télévisés, on a pu faire les enfoirés, les moments aussi au Club France. Je pense que c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé vivre et c'était chouette de le faire.
Voilà, bien sûr c'était chouette de le faire. Les frères Lebrun, c'est pareil, hein. C'est des véritables icônes maintenant, hein, Jean-Pierre.
Oui, alors là, je vais encore revenir en arrière en parlant de Jean-Philippe Gatien, parce qu'on était ensemble aussi.
On a aussi bien connu, qu'on a eu l'occasion souvent d'interviewer, ouais.
Voilà, puis on a été récompensé plusieurs fois, ensemble même 90 et tout. Oui. Jacques Secrétin, enfin bref, voilà. Oui. Pour les anciens, s'en souviendront. Mais là, vraiment, ils ont porté le tennis de table haut et pas simplement au niveau du jeu, au niveau de l'ambiance, le fait que ce soit une fratrie aussi. Je pense que ça a mobilisé beaucoup de sentiments de la part des uns et des autres, parce qu'on s'y retrouve un petit peu, tous ceux qui ont eu des frères, comme ça.
C'est pas facile, des fois, pour les parents.
Souvent, il y en a un qui performe et pas l'autre. Et là, on a les deux, quoi.
Tantôt l'un, tantôt l'autre.
Mais voilà. Et puis à un niveau quand même, c'est dur. Hein. C'est dur. Le tennis de table, il y a une grosse concurrence du côté des Asiatiques qu'on n'a jamais réussi à égaler. Et là, ils ont carrément remporté une médaille aux Jeux Olympiques. C'est quand même assez incroyable.
Allez, on finit avec la ministre.
Avec la ministre des Sports, Marchac, exactement. Voilà. Notamment sur le rapport de la Cour des comptes dont on a parlé tout à l'heure.
Allez, on y va.
Contexte budgétaire, les JO 2030, on sait que la Cour des comptes a aussi mis le doigt dessus.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, et la Cour des comptes le souligne, il n'y a pas eu du tout de dépassement. Il y a une gestion vraiment très rigoureuse du budget de Paris 2024. Donc on va évidemment s'attacher à avoir la même méthode, la même rigueur pour tenir celui des Jeux 2024. Je vais être au Sénat demain, après-demain, pour une proposition de loi sur les Jeux de 2030, où il y a notamment des sujets de garantie financière pour qu'on se donne les mêmes règles pour vraiment être au rendez-vous sur ces enjeux. Autre enjeu important pour 2030, c'est la sobriété environnementale. On va organiser des jeux dans un espace naturel, la montagne. Donc là aussi, il faut trouver le meilleur moyen de réduire un maximum l'empreinte carbone, mais aussi de faire progresser les enjeux écologiques et la transition, la transformation de la montagne, avec aussi un objectif d'accompagner la transformation de la montagne et son activité économique pour qu'elle vive toute l'année et pas seulement sur les saisons touristiques. Donc ça aussi, c'est les jeux, c'est une opportunité d'être un accélérateur pour aller de l'avant sur ces sujets. Tout comme dernier sujet important, c'est celui de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. On a aussi besoin en France d'avoir des stations beaucoup plus accessibles et le fait d'organiser les Jeux paralympiques et d'accueillir beaucoup de spectateurs en situation de handicap vont nous permettre vraiment de construire ces dispositifs d'accessibilité à la montagne pour les personnes en situation de handicap. Donc on est pleinement mobilisés pour utiliser les mêmes recettes qui ont marché et qui ont d'ailleurs été soulignées dans le rapport de la Cour des comptes.
Sur le dépasse JO, on a vu qu'il a été sabré.
Je vous trouve dur, sabré. Non,
mais c'est pas moi qui me swing, c'est notamment je prends Léo Marchand ou Teddy Riner qui ont réagi vraiment fortement vis-à-vis de ça.
Ils ont réagi à un moment où on était en plein dialogue et je pense que leur parole a été entendue puisqu'on a trouvé un point d'équilibre sur le budget des sports 2025. Puisque vous le savez, il y avait un projet de faire encore une coupe de 34 millions sur le budget des sports et cette coupe n'a pas été faite, n'a pas été réalisée. Et au contraire, il y a eu un abondement de 80 millions d'euros pris sur une taxe sur les paris sportifs pour le budget des sports. Donc la mobilisation forte du mouvement sportif et des athlètes en particulier a vraiment porté ses fruits. Et aujourd'hui, je suis évidemment dans la phase de dialogue, comme tous les ministères, au sein du gouvernement pour présenter une copie du budget 2026 devant l'Assemblée nationale à la rentrée. Et évidemment, je dialogue, je discute et j'argumente en sentant qu'il y a aussi des athlètes derrière qui regardent, qui sont attentifs sur ces sujets parce qu'on doit aussi, nous, respecter notre promesse, celle d'encourager tous les Français à faire plus de sport pour peu qu'ils gagnent des médailles et qu'ils jouent leur rôle modèle. Et donc, on est vraiment dans la même logique que la construction du budget 2025, trouver le bon équilibre pour accompagner cet héritage et ouvrir un maximum la pratique sportive aux Français.
Vous le disiez demain, donc début de l'examen au Sénat de la loi olympique, est-ce qu'on va s'inquiéter pour les Alpes 2030? Il y a quand même beaucoup de retard. Ce 23 juin, ça va être la présentation de la carte des sites. On sait qu'on a du mal à monter une équipe de com. Ça commence à prendre quand même beaucoup, beaucoup de retard, le COJO, depuis la nomination de Garo Péron.
Alors, il y a évidemment un démarrage qui n'est pas forcément perçu de façon du grand public comme il pourrait l'être. Paris 2024, parce qu'on compare beaucoup Paris 2024 aux Alpes 2030, avait connu une phase de candidature et donc des collaborateurs avaient tout de suite été mobilisés, dont je faisais partie par exemple, sur le comité d'organisation. Donc visiblement, c'était tout de suite staffé. Là, c'est un peu différent. Il faut recruter, ça prend du temps. Mais pour autant, les Alpes 2030, aujourd'hui, ont beaucoup d'acteurs qui travaillent avec eux, donc sur la base de prestations notamment d'anciens collaborateurs de 2024 qui posent des premiers jalons, des bases sur les stratégies à poser pour les Alpes 2030. Et puis il y a aussi un travail de fond avec les collectivités pour poser la carte des sites, de maquette budgétaire qui est très importante. Donc ça, c'est en dialogue au sein de toutes les parties prenantes et c'est extrêmement structurant. Quand on aura la carte des sites, le budget validé, le projet va vraiment pouvoir partir comme entre-temps on se staff. Je pense qu'on peut être optimiste sur les Alpes 2030.
Ce sera quand la carte?
À la rentrée.
Comment votre expérience sur l'héritage et l'impact de ces Jeux vous a-t-elle servi sur votre prise de fonction?
C'est évident que j'ai pu tout de suite, en étant nommée, faire valoir qu'il fallait donner les moyens au sport de continuer de se développer avec des arguments très concrets, puisque ce sont des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai eu à cœur typiquement de transformer le label Génération 2024 en label Génération 2030. Donc Elisabeth Borne l'a annoncé et on est en train de construire le contenu de ce label et de cette plateforme qui va voir le jour. Donc évidemment, j'ai pu capitaliser sur toute mon expérience en connaissant beaucoup d'acteurs dans les ministères, puisque quand j'étais à Paris 2024, j'ai travaillé aussi bien sur les sujets d'emploi, de développement économique, d'éducation, d'insertion, d'inclusion. Donc les acteurs qui travaillent sur ces sujets, je les connaissais pour la plupart, donc ça m'a quand même aidé à avancer assez vite.
Merci beaucoup.
Jean-Pierre, un dernier petit mot sur cette salve d'interview qu'on vient de diffuser à nos auditeurs, qu'on les a gâtés. Maintenant, cap sur Alpes 2030.
Ben oui, alors bon, là ils disent ça a du mal à démarrer, mais bon, c'est dans deux
ça,
ans.
C'était
quand
un
même.
Petit peu enfin, compliqué quand même, trouver une équipe d'organisation, bon voilà.
Oui, mais bon, il faut prendre le temps de prendre les bonnes personnes, après ça va vite. Il y a quand même une expérience et puis il y a celle là des JO de 2024 qui, voilà, il y a quand même beaucoup de...
Et puis les précédentes, hein, 92.
Bien sûr. Et puis 68, je crois.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc non, je pense qu'il faut, il faut laisser le temps au temps, comme disait
un ancien président.
Et qu'à partir du moment où toute l'équipe sera constituée, tout va rentrer dans l'ordre. Moi, je suis très, très optimiste et les gens qui vont être choisis vont être les bons.
Oui, il faut l'être optimiste.
Hein. Ben, oui, ouais, oui, oui, ça s'est toujours bien passé. Quand on voit les jeux qu'on a eus à Paris, il n'y a pas de raison.
Il y avait beaucoup de pessimisme avant, mais
bien sûr.
Et à tort. Hein.
Mais bien sûr. Ah. Alors là, forcément, ça crée une grosse attente. Hein. Par contre, forcément, c'était une telle fête, c'est une telle réussite que forcément, tout le monde va attendre 2030 avec un niveau d'exigence. Mais bon, nos athlètes au niveau des Jeux d'hiver sont très très forts aussi. Là, on va avoir des belles surprises, je pense.
Allez, on souffle en musique et ensuite on aura le grand journal des sports d'Alexandre. Et on parlera après et on finira cette émission en parlant donc de boxe française. Clinton made that shit. On va donc, cette émission, la continuer en parlant naturellement d'une info sportive particulièrement chargée et dense, Alexandre, avec cette quinzaine. On commence naturellement avec cette très belle finale de rugby et ce 24e titre pour Toulouse.
C'est ça, 24e sacre pour le club toulousain.
Oui.
Toulouse qui affrontait donc au Stade de France à 21h05 samedi, Bordeaux-Bègle.
Ah, il devait faire bon au Stade de France.
Ah oui, il y avait beaucoup de monde et ce sont les Toulousains du coup qui ont gagné 39-33 après prolongation.
Quel match. Et je pense qu'il y avait peut-être un petit peu plus de maturité, d'expérience. De compétition pour Toulouse et c'est ce qui fait à ce niveau-là la différence.
Il faut quand même souligner que les deux équipes, que ce soit en Europe ou sur la scène nationale, ont quand même fait une très très belle saison.
Oui, alors Bordeaux-Bègles champion d'Europe, ils ont gagné trois fois devant Toulouse cette année. Exactement. Dans les deux matchs de la saison régulière, plus la demi-finale de la Coupe d'Europe, mais la finale du top 14, c'est Toulouse qui l'a gagné.
Voilà, en basket.
Ah ouais,
Paris. Alors attention.
Paris,
Philippe.
Paris.
pour la première fois.
Ah oui.
Ça va faire plaisir à Vanessa parce qu'on sait qu'elle était souvent
Arena. On est fiers parce qu'on les avait reçus en mai 2022, au moment où ils étaient en première année de professionnalisme. On les a reçus dans le studio, on était fiers, on les a accompagnés et ils sont champions de France 3 ans plus tard.
Donc c'est un club qui a très très bien travaillé et donc pour la première fois, le Paris Basket est champion de France. Donc ça s'est joué jusqu'au match 5 et les Parisiens l'ont remporté 99-93. Donc voilà, saison historique pour les Parisiens qui remportent enfin le championnat.
Oui, et pour faire une comparaison avec le rugby, Toulouse finit premier la saison régulière sans champion de France. Et le Paris Basketball finit premier de la saison régulière et sans champion de France. Comme quoi,
Et puis champion de France aussi contre Monaco, c'est pas rien avec plusieurs matchs aller-retour.
Ça joue toujours comme ça. Leaders, non mais la finale du basket, ça joue toujours en plusieurs matchs. Hein.
Mais des beaux matchs.
Bon, pour les femmes, t'en parlais tout à l'heure un petit peu, Philippe. L'équipe de France a terminé 4e des championnats d'Europe. Après avoir écarté la Lituanie en quart, les Françaises sont inclinées 65-64 contre l'Espagne.
Avec ce lancer franc raté.
Ce fameux lancer franc qui nous prive de la prolongation. Quel dommage. Et une nouvelle fois contre l'Italie lors de la petite finale 69-54. Et sinon, par contre, c'est la Belgique qui a gagné ce championnat d'Europe 67-65 contre les Espagnols.
Deuxième titre consécutif pour les Belges.
C'est ça. Ouais. Et puis, je voulais en parler la semaine dernière, mais j'en parle cette semaine.
Parlons-en.
En NBA, forcément. Ça s'est joué au Game 7. Je ne sais pas si tu as regardé, Philippe, si tu étais devant ta télé à 4h du matin.
Mais... regarde tellement de choses.
Non, franchement, c'était passionnant, ces finales. Donc, ça s'est joué au Game 7, et c'est entre OKC et Indiana. Mmh. Et ce sont bien les Thunders d'Oklahoma qui ont remporté ce titre d'NBA. Franchement, ils ont dominé le match de la tête et des épaules. Même si la blessure de Tyrese Haliburton est arrivée tôt dans le match pour les Pacers, mais ça n'a rien changé. Donc voilà.
Donc
score
là
final.
Aussi, tu vas rappeler combien de matchs ça joue.
7.
Peut-être là. C'est ça.
Ça s'est joué en 7 matchs.
Je le sais, mais bon.
C'est ça parce que ça peut se jouer en moins, mais là, étant donné qu'il y avait 3 partout.
Donc ça fait 4-3. Paris 3-2 et 4-3 pour.
C'est ça. Et 103-91, c'est le score du match et donc champion Oklahoma.
Très bien.
Voilà. En football, le PSG a gagné son match contre l'Inter Miami de Lionel Messi 4-0 en une mi-temps. Ça s'est joué en une mi-temps. Les Parisiens donc affronteront en quart de finale le Bayern qui a écarté Flamengo 4-2.
Entièrement jouable.
C'est ça. Autre quart de finale, on connaît déjà, c'est Chelsea contre le club brésilien de Palmeiras. Mm-hmm. Et ce soir, donc l'Inter affronte Fluminense en 8e de finale. Voilà. Sinon, les Bleuets se sont fait éliminer en demi-finale.
Comme en 2019.
Voilà.
Ouais. Demi-finale.
Donc, ils se sont fait éliminer en demi-finale de l'Euro Espoir contre l'Allemagne 3-0. La même Allemagne qui s'est inclinée en finale 3-2 contre l'Angleterre.
Ouais. Qui conserve son titre.
Qui conserve son titre. L'Angleterre, grosse génération à venir.
À suivre.
À suivre. Bon, de toute façon, les Anglais, c'est toujours ça. C'est suivre en jeune et puis après, arriver. Et puis l'équipe de France féminine qui, avant d'entamer l'Euro, a gagné son match amical contre le Brésil 3-2 avec un doublé de Gueyoro et un but de Marie-Antoinette Katoto. Mm-hmm. Et puis Philippe, on ouvre une page sport mécanique.
Ouais.
Je tiens à dire d'ailleurs que le film F1 est sorti au cinéma.
Oui.
Je ne sais pas si vous l'avez vu. Franchement, je l'ai vu. Ouais. C'est franchement, ça vaut le détour. C'est vraiment super.
Bon, moi, j'ai vu le film sur le Dakar. Toi, tu as vu sur la F1, mais il faut le voir à la F1. C'est bien.
Franchement, c'est un très bon film. Et en F1, c'est le Grand Prix d'Autriche qui s'est joué cette semaine, remporté par la McLaren de Lando Norris, suivi par son coéquipier Oscar Piastri. Charles Leclerc termine 3e. Au classement donc, des constructeurs, McLaren est toujours leader et prend vraiment de la marge sur Ferrari. Et au classement des pilotes, c'est Oscar Piastri qui est leader. Grosse saison pour McLaren. En moto, Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, et nouvelle fois remporté
par Marc Marquez,
suivi par les deux Italiens Bezzecchi et Bagnaia. L'Espagnol est toujours leader au classement, tout comme son écurie Ducati. Et en rallye, belle course en Grèce de nos Français, puisque Sébastien Ogier et Adrien Fourmeau terminent à la 2e et 3e place derrière le Finlandais Ott Tänak. Et au classement, Elfyn Evans est toujours leader, suivi de près par donc Sébastien Ogier et Ott Tänak. Adrien Fourmeau est lui 7e. Franchement, en rallye, on est servi pour les Français, c'est pas mal. En cyclisme, c'est João Almeida, le Portugais, qui remporte le Tour de Suisse devant le Français Kevin Vauclin et le Britannique Oscar Henley.
Il avait gagné le Tour de Romandie, il gagne le Tour de Suisse.
C'est ça, c'était la semaine dernière. Et Julien Alaphilippe termine 5e. Il y avait également le championnat de France sur la route aux Herbiers en Vendée, remporté par Dorian Godon chez les hommes et Marie Lenette.
Dorian Godon, qui a gagné au sprint.
C'est ça.
Ouais.
Et Marie Lenette chez les femmes. Ouais. Et en course contre la montre, c'est Cédrine Kerbaol qui a survolé les débats aux Herbiers, tandis que Bruno Amiral a décroché un 3e sacre.
Un spécialiste.
C'est ça. En athlétisme, quelques temps forts du meeting de Charletti du 20 juin de la semaine dernière. Le retour de l'Éthiopien Lameka Girma au 3000 mètres Steeple après sa terrible chute pendant les Jeux Olympiques. Hein, on s'en souvient, là il est bien revenu. Et puis au 1500 mètres homme, Asdin Abs qui termine premier avec un record de France. 3 minutes 27 secondes et 49 centièmes. Ou encore Thomas Gaugeois qui termine troisième au triple saut homme avec 17 mètres. 11 de sauter.
Oui, et 19 000 spectateurs à Charletti. C'est-à-dire que c'est mieux que les matchs du Paris FC. Hein. Donc, pour le dire, non, mais c'est vrai. Hein. 19 000 spectateurs pour cette réunion d'athlétisme. Hein. Ouais.
On poursuit avec donc, le judo.
Ah bah oui.
Et le bilan des Français en championnat d'Europe de Budapest. 7e place sur la compétition par équipe mixte pour l'équipe de France. 4 médailles au total. L'or pour Johan Benjamin Gaba. L'argent pour Romain Valadier-Picard et le bronze pour Sarah Léonie Sizik et Roman Dico.
Ouais, alors on estime que ce n'est pas un bilan terrible pour le judo qui habituellement ramène un peu plus de médailles. Ouais. Par contre, on parlait d'escrime, ça va beaucoup mieux pour les championnats d'Europe d'escrime.
Exactement, donc je voulais terminer par ça, l'escrime et les championnats d'Europe. Donc 9 médailles pour la France, dont 5 en or. Eva Lacheret au fleuret dame en individuel, Rémi Garrigue au sabre homme en individuel, Sarah Nucha au sabre dame en individuel, Paul Allègre, Alexandre Bardonnet, Gaëtan Bia et Luigi Middleton en épée homme par équipe, Sarah Balzer, Faustine Clapier, Sarah Nucha et Toscan Tori en sabre dame par équipe, hein, ça, qu'on a entendu tout à l'heure. 3 médailles d'argent aussi, Anna Sanan au fleuret homme en individuel, Anna Sanan, Pierre Loisel, Maxime Potti et Raphaël Savin au fleuret homme par équipe, Sarah Balzer, Faustine Clapier, Sarah Nucha et Toscan Tori au fleuret dame par équipe. Et enfin, une seule médaille de bronze, celle de Jean-Philippe Patrice au sabre homme en individuel. Donc c'est un bon bilan pour les Français en escrime. Et puis, bien sûr, bon, on ne pouvait pas rendre l'antenne.
Une pensée pour deux grands sportifs qui nous ont quittés.
Bernard Lacombe qui nous a quittés maintenant il y a 10 jours, légende du football français qui a fait notamment les belles heures de l'Olympique lyonnais.
Et vous, la jeune génération qui pensait que les footballeurs sont très bons maintenant, sont meilleurs que les autres, eh ben non. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1.
De la Ligue 1, oui.
Derrière Nelio Onis. Donc, vous voyez, il faut remonter très loin.
Un grand monsieur Bernard Lacombe qui est parti.
Oui, oui.
Et également Denis Latoud,
grand monsieur Latoud,
légende du handball, qui nous a quittés cette semaine aussi.
Il était parmi la première équipe championne du monde donc de hand en 1995. Merci Alexandre. Après cette belle actu sportive, comment va la savate dans notre pays et surtout dans notre région et sur Paris?
J'ai envie de vous dire, ça va de bien.
C'est bien, beau jeu de mots.
Forcément.
Ouais. Non, mais c'est bien, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de pratiques. Et est-ce que les Jeux indirectement, même si vous n'êtes pas discipline olympique, ça vous attirait davantage de pratiquants et pratiquantes?
Non, on peut pas dire ça. On n'a pas de retour. On aurait eu si on avait été présent, j'imagine. On n'a pas perdu l'espoir d'y être un jour. Mm-hmm. Il y a un travail qui est fait aussi au-delà de la Fédération française, par la Fédération internationale. On a d'ailleurs une réunion là. Moi, je pars en Bulgarie là pour les Mondiaux mercredi prochain. Et puis on aura une assemblée générale. Je suis un des représentants de la Fédération française à la Fédération internationale. Donc je sais que il y a une discussion qui sera encore autour de cette candidature pour des jeux futurs. La savate se porte bien. On a beaucoup de projets. Forcément, on est une nouvelle équipe qui avons été élus avec une volonté de changement. Je rappelle aussi que le mode de scrutin a changé. Ce sont les clubs qui ont voté pour les gouvernances des fédérations.
Ah, c'est démocratique.
C'est plus démocratique.
Ah oui.
Donc forcément, c'est pas que chez nous, mais il y a eu beaucoup de changements dans plein de fédérations. Et donc nous, à partir du moment où on a été élu sur un programme de campagne avec beaucoup de changements, on a du boulot. On a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de choses qui étaient en place depuis très longtemps et qui ne fonctionnaient pas forcément et qu'on maintenait. Donc on essaye un peu de changer petit à petit les choses. On a deux gros projets pour la rentrée, puisqu'on parlait tout à l'heure de budget pour le sport, et on sait que les subventions publiques vont être amenées à diminuer au fil des années, de toute façon. Donc on a repensé un petit peu notre modèle économique. On a un projet qu'on a appelé la Maison de la Savate, qui va ouvrir, d'ailleurs on vous invitera pour l'inauguration, qu'on veut ouvrir avant la fin de l'année. Là on va signer l'acquisition du local la promesse de vente mercredi, où il y aura un magasin, il y aura un studio numérique, il y aura une grande salle de réunion d'accueil de délégation, il y aura un côté historique puisque, il y aura un décor qui sera vraiment aux couleurs de l'histoire de nos disciplines. Et puis autour de ce lieu, on a pensé Stéphane Barrère, qui est un président de comité en Gironde et qui a pensé à, c'est un ancien aussi de la savate, hein, il a pensé à un circuit, puisqu'on s'est rendu compte qu'autour de ce lieu, il y avait beaucoup d'endroits emblématiques dans l'histoire de nos disciplines, la première salle d'entraînement, la première salle où il y a eu des compétitions, le premier magasin où ont été construites des cannes de combat, puisque nous on fait ça aussi.
Autre sport aussi voilà, qu'on a reçu à l'antenne.
Un circuit touristico-historique autour de ce lieu qui va donner une dimension aussi culturelle, puisque nous avons également repris le dossier, puisque la savate boxe française est au patrimoine immatériel de la culture française. Et la dernière étape, ce projet avait été abandonné, mis de côté en tout cas. Donc on l'a repris pour pouvoir faire la démarche, pour avoir la reconnaissance au niveau de l'UNESCO. Donc tout ça va un petit peu dans le même sens pour repositionner la savate boxe française comme étant vraiment un sport français appartenant à la culture française, voulant participer à cette nouvelle identité pour tous. Mmh. On insiste sur le pour tous, nous. Voilà, c'est la culture française pour tous. Mmh. Donc, on est vraiment sur un repositionnement de notre sport. Le deuxième gros projet, on vient d'apprendre en fait que notre partenaire Fight Nation venait de signer avec Free et nous a proposé d'avoir une soirée dédiée à la salle de boxe française.
Ah ben c'est bien.
Donc, à partir du 22 septembre, vous pourrez nous voir à la télé, sur un canal dédié au sport de combat.
Et ça sera où cette maison du hand dans Paris, cette maison de la savate, parce que ça sera comme la maison du hand à Créteil.
Voilà, voilà.
Ça sera où donc cette maison de la savate à Paris, dans quel arrondissement?
Ce qui est incroyable, c'est qu'on a trouvé à 180 mètres de notre siège fédéral une ancienne agence immobilière.
Ah, c'est bien.
Donc voilà. Alors,
c'était prédestiné.
Mais oui, c'est vraiment incroyable. On a notre garage au 26 et elle sera au 24.
Ah bah comme ça, l'agence immobilière.
Et nous, on est situé. Notre trottoir, c'est le 9e. Et le trottoir d'en face, c'est le 10e. Donc d'accord. Nous, le siège fédéral est au 9e, mais ce sera le trottoir d'en face, ce sera au 10e.
On ira.
Avec grand plaisir.
Voilà. Alors, il faut dire que c'est un sport qu'on pratique. Il y a autant de filles qu'autant de gars dans votre sport. Hein.
Alors, pas autant, très, malheureusement.
Bon, presque la parité, non? Non?
Alors, pas tout à fait. Non, pas encore, mais bon, on a des ambitions là-dessus, puisque là, on vient de déposer notre contrat de délégation dans lequel on doit afficher un certain nombre d'objectifs au niveau de la parité. On a mis l'objectif de 5 points de plus. On est aujourd'hui à 37-38% de féminines. Ah on bon, reste d'accord. quand même une des fédérations où il y a le plus de féminines, Et dans les sports de combat, c'est nous, de toute façon. Mais c'est jamais assez. De toute façon, nous, ce qu'on a, c'est 50%, effectivement, au niveau de la gouvernance de la fédération, 50% à parité égale d'administrateurs féminins, féminines et masculins. Ça, c'est acquis et on le gardera pour toujours.
Oui, justement, je me demandais, pour prolonger un peu, quel rapport vous faites entre la situation sociologique de certains boxeurs ou boxeuses, je pense notamment à Davina Michel, et puis justement cette pratique de la boxe comme outil aussi de développement? En tous les cas, est-ce que la boxe est aussi une manière de se développer sur le plan sociologique, social? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que j'en pense, c'est qu'il faudrait interviewer des féminines, comme elles sont mieux placées que moi pour en parler. Cependant, moi, j'ai entraîné des féminines. Donc,
sur le parcours, en tant que.
Oui,
ce que vous avez pu constater.
Souvent. On est moins dans les remarques où mais la boxe est faite pour les garçons, c'est pas pour les filles. Surtout que nous, on a des athlètes féminines qui sont aussi fortes, voire plus fortes que nos masculins, même si nos masculins sont vraiment, numéro un sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, l'athlète la plus titrée de toute l'histoire de notre sport, c'est une féminine. Mm-hmm. C'est Chloé Nandy. Mm-hmm. Donc, et qui est encore d'ailleurs en équipe de France et qui, est d'ailleurs, et qui a d'ailleurs été élu pour représenter les athlètes de haut niveau à la commission de haut niveau. Voilà. Et elle est encore championne de France cette année et elle sera en Bulgarie pour défendre son titre de champion du monde. Donc pour nous, en fait, on ne fait pas de différence parce que les filles, et même quand on met les gants avec les filles, il faut bien se tenir parce que, voilà, elles sont très 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 fortes.
Oui.
La salle de boxe française, à partir du moment où on met des coups de pied, demande aussi une certaine souplesse. Donc de manière générale, les femmes sont plus souples que les hommes. D'ailleurs, pas simplement physiquement, mais mentalement. J'ai pu le constater, moi aussi.
On en avait parlé, oui.
On en avait parlé, oui. Voilà. Alors, après, au-delà des féminines, on est un sport amateur. Il est pas facile de mener de front une carrière sportive de haut niveau et une carrière professionnelle ou même des études. Certains y arrivent. Bon, moi, je l'ai fait. Donc, je peux en parler. Hein. C'est pas facile. C'est possible. Possible, mais c'est pas facile, surtout que il faut aussi trouver des milieux professionnels qui favorisent ça et qu'il n'y en a pas tant. Donc c'est d'autant plus admirable, je dirais, et puis aussi pour une femme, compte tenu de sa place encore dans la société patriarcale, malgré tout. Donc c'est d'autant plus admirable de voir ces parcours.
Oui, alors Jean-Pierre, il y a deux catégories dans votre sport. Hein.
Alors, vous voulez dire deux pratiques
oui,
de haut
oui,
niveau
oui, 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 il faut quand même le préciser. Hein.
Oui, il y a une reconnaissance à haut niveau.
Ce qui peut inciter effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de femmes. Quoi.
Alors, oui, alors pas seulement, puisqu'il y a autant d'athlètes championnes en combat, où là, on porte les coups, comme toutes les boxes.
Faut le dire,
Voilà l'image qu'on a de la boxe, on peut faire du KO, mettre quelqu'un KO, etc. Mais on a aussi une forme qui est reconnue à haut niveau, donc avec une équipe de France, les championnats de France, Europe, du monde, qu'on appelle l'ASSO, où là, on est plus noté sur la technique, sur la précision des touches. Mais tous les coups doivent être contrôlés. On n'a pas le droit de mettre quelqu'un KO, on n'a pas le droit de frapper. Et c'est une discipline qui est aussi difficile parce qu'il faut aller très, très vite, être précis, mais les impacts doivent être contrôlés. Donc, on a forcément une attirance beaucoup plus importante peut-être de la part des féminines, mais on a aussi des disciplines associées. On a la savate forme, par exemple. Alors là, ce n'est pas du haut niveau.
Parce qu'on se spécialise, on est obligé, quand on commence la boxe française, de se spécialiser, justement.
Par rapport à ces deux pratiques
Non.
La preuve en est que, moi aussi, je suis passé par là, donc j'y ai été. On peut être à la fois champion en technique, parce qu'on appelle ça l'assaut en technique, et champion en combat. Donc, et aujourd'hui, on a des gens qui sont à la fois championnes en assaut, donc en contrôle, et championnes en combat. Donc, voilà. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, alors on ne le fait pas pour multiples raisons, mais si à l'entraînement, et ça arrive souvent, de voir une féminine de haut niveau avec un garçon de haut niveau qui boxe en technique, ben là, effectivement, on se retrouve à niveau égal. Et là, il y a des filles qui sont plus fortes que les garçons, effectivement.
Et il y a des catégories de poids dans votre sport, comme tous les sports de combat.
Bien sûr. Alors, les catégories de poids, comme tout le matériel, sont liées à la prévention des blessures et pour pouvoir respecter le principe de toute compétition sportive qui est l'équité. C'est-à-dire que chaque personne doit avoir les mêmes chances de gagner. Si on met quelqu'un de 50 kilos face à quelqu'un qui fait 90 kilos, on n'a plus cette équité de manière évidente. Quoi. Donc oui, on a des catégories de poids. Donc ça veut dire aussi qu'il faut gérer son poids pour un athlète. C'est souvent
la difficulté.
C'est souvent difficile, d'autant plus dans les sports amateurs. Je pense notamment à des gens qui ont des professions de représentation. Ils doivent aller manger au restaurant avec des clients, des choses comme ça. C'est pas facile. C'est pas. Il faut vraiment, se rendre compte que de gérer son poids au quotidien, c'est aussi un combat. Ça veut dire que le premier combat, on dit chez nous en boxe, c'est la pesée. Et quand la pesée elle est passée, c'est déjà un premier combat de gagné. Et après, on peut se concentrer sur le combat ou les combats en lui-même. Parce que là, par exemple, les championnats du monde, il y a plusieurs combats sur plusieurs jours. C'est des éliminatoires. Etc.
C'est des matchs, c'est des combats, c'est trois rounds, je crois.
Là, c'est trois rounds sur les éliminatoires. C'est sinon, c'est cinq rounds
à
haut niveau.
Par round?
Deux minutes. Deux minutes, temps effectif.
Donc le cardio est intense. Intense.
C'est reconnu comme étant, parmi les sports, les plus énergétiques. puisque il faut non seulement travailler tout le corps, mais il faut le faire en fonction d'un gros niveau d'incertitude qui est représenté par l'adversaire.
Ouais. Et un mental important.
Très important.
Il faut avoir envie de manger son adversaire, non?
Non, pas forcément.
Non, pas forcément.
Non. Enfin, moi personnellement, c'est pas, par exemple, mes points de repère. Comme disaient les escrimeuses tout à l'heure, on a tous, en fin de compte, des points de repère différents. Certains, justement, ce côté-là, ils le rejettent. Ils ont besoin, justement, d'avoir des images plutôt de sérénité, de se sentir calme pour pouvoir être bien performé, de pouvoir être bien lucide. Voilà, moi, j'avais inventé une espèce de schéma avec un curseur. En fait, le curseur, il doit être au niveau des yeux. On voit bien ce qui se passe. Si on a trop d'appréhension, il descend, on ne voit plus ce qui se passe. Si on a trop de colère ou trop d'envie, presque, on monte et là pareil, on n'est plus lucide, on perd. La lucidité est quelque chose de fondamental à partir du moment où on doit réagir par rapport à l'adversaire. Donc l'aspect cognitif, pouvoir percevoir ce que va faire l'adversaire et décider de quelque chose d'adapté, va être déterminant. Donc il faut vraiment être lucide et donc vaut mieux plutôt être assez calme.
Est-ce que vous ne souffrez pas trop de l'essor du MMA, parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par votre sport et qui passent sur le MMA? C'est vrai que quand on parle de boxe française, on est tous d'une génération où on a l'image des Brigades du Tigre, hein,
c'est oui, oui.
Est-ce que vous en souffrez pas parce qu'il y a de la concurrence aujourd'hui?
Alors pas trop nous, non, parce que nous on a deux spécificités que personne d'autre n'a. Nous, on porte des chaussures, déjà.
Oui, oui.
Nous, c'est la savate.
Oui, oui.
Les autres disciplines où sont pieds nus, oui, effectivement, le passage peut se faire. La deuxième spécificité qu'on a, c'est que nous, nos coups sont codifiés. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quel coup de pied. Les coups étaient codifiés avec deux intentions. Et il y a bien, bien longtemps, puisque ça a été codifié par Joseph Charlemont en 1873, dans ces années-là, quoi. À la fois pour ne pas s'esquinter, les gens ne le savent pas, mais si les coups de pied sont mal faits, ils s'esquintent au niveau des articulations. Ils vont tirer tel ligament, parce qu'ils auraient dû se positionner d'une certaine façon, ils ne le font pas. Donc plus ils répètent ces gestes-là, plus en fin de compte ils s'esquintent. La deuxième raison, c'est pour pouvoir être plus efficace. C'est-à-dire que cette codification a été conçue pour que les mouvements soient plus efficaces. Donc quand même deux bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on dit, et même les gens du MMA, il y a beaucoup de gens du MMA qui viennent s'entraîner en salle de boxe française parce qu'ils viennent apprendre les bons gestes. Ils viennent apprendre les coups qui sont efficaces, ils viennent apprendre les techniques qui ne vont pas les esquinter et qui peuvent donc s'enchaîner plus vite aussi, etc. Et qu'on dit que la salle de boxe française, c'est la meilleure école de boxe pied-point.
Ouais. Il n'y a pas trop de problèmes au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas trop de contestations?
Alors, comme dans tous les sports, c'est des sports à juges.
Je me dois de poser la question.
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Forcément, il y en a pas plus qu'ailleurs, hein, ceci dit. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Nous, on a la chance d'avoir compris assez rapidement qu'il fallait des jeunes. Donc, dès les championnats Benjamin, minimes, on a des officiels jeunes qui sont mélangés avec les officiels adultes. Ce qui fait qu'on a des arbitres qui ont commencé très très jeunes, qui ont pu se perfectionner. On a des gens qui vont être très bons peut-être sur l'assaut, d'autres plus sur le combat. Bon, c'est pas encore aujourd'hui l'idéal. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais on a beaucoup d'anciens qui restent et donc qui sont là pour former les plus jeunes. Il va d'ailleurs y avoir un stage qui va démarrer dès la semaine prochaine de formation. Régulièrement, ils sont mis en formation de toute façon.
Alors justement, c'est bien. Est-ce qu'on peut vivre de la boxe française? Est-ce qu'on peut vivre comme éducateur? Est-ce que ça, c'est pourvoyeur d'emploi?
Aujourd'hui, comme beaucoup de sports, je dirais oui, mais à condition d'avoir plusieurs employeurs.
Oui, d'accord.
Voilà,
Ou éducateur pour plusieurs clubs, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et avoir les diplômes, naturellement.
Voilà, parce que les clubs, d'une manière générale, fonctionnent le soir.
Oui, bah oui.
D'accord, parce que les adhérents travaillent la journée. Même si aujourd'hui, alors vous parliez de concurrence, notre concurrence à nous, comme tout le mouvement sportif traditionnel, j'ai envie de dire, les fédérations, c'est plutôt le sport libre. C'est plutôt les sociétés commerciales d'accès librement aux pratiques. Et là, depuis quelques années, on a vu émerger des sociétés, des salles d'entraînement à accès libre équipées avec des sacs de frappe, enfin, de salles de boxe, hein, en fin de compte, où les gens viennent, ils payent et ils s'entraînent comme ils veulent, entre eux, parfois, etc. Bon, malheureusement, il n'y a plus l'aspect pédagogique, il n'y a plus l'aspect des valeurs qui accompagnent les sports de combat, parce que les sports de combat sont très très riches au niveau des valeurs. Vous avez sûrement déjà vu un combat de boxe et vous voyez que les combattants se respectent, quel que soit le sport de combat. D'ailleurs, ça fait partie de la culture des sports de combat, de respecter son adversaire, l'arbitre, les gens de manière générale. Et quelqu'un qui a du haut niveau, qui arrive à haut niveau en sport de combat, en règle générale, est quelqu'un de très respectueux et qui va essayer de développer ça et d'inculquer ça auprès de ces jeunes. En tout cas, en vivre aujourd'hui, c'est très très difficile. On a des auto-entrepreneurs comme dans d'autres métiers et qui effectivement passent d'une salle à une autre, etc., etc.
Et au niveau de vos salles, de vos infrastructures, il y a de la place pour tout le monde, vous n'avez pas de problème pour partager avec d'autres clubs sportifs les différents gymnases?
Non, non. Moi j'ai monté un club il y a bien longtemps, c'était en 89, hein, donc vous voyez. Hein,
c'est bien.
Après, j'ai monté des projets de salle avec la mairie, etc. Il faut être actif, attention.
Il n'y a pas d'engorgement, quoi.
Non. On a monté une grosse salle qui a ouverte maintenant. C'était la troisième que j'ai pu faire, en fin de compte. Et c'était en 2008, hein, je crois. Et on partage avec le MMA, on partage avec la boxe thaï. Encore une fois, on n'est pas des sports professionnels. On n'a pas une obligation d'entraînement tous les jours ou, en tout cas, dans le club. Arrivé à un certain niveau, les gens s'entraînent tous les jours, même dans nos sports à nous, les sports amateurs. Mais on fait des programmes où les gens peuvent faire des choses de leur côté. Les gens vont faire des entraînements au club. Des fois, on va se dégager pour pouvoir les retrouver ailleurs que le club sur les périodes de préparation compétition. On se débrouille un petit peu comme ça, c'est pas évident, mais jusqu'à présent, ça a suffisamment fait ses preuves, puisque la salle de boxe française est numéro 1 au niveau international.
Et ceux et celles qui veulent, après cette émission, venir vous rejoindre, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez un site internet où ils viennent directement dans tout le club? Parce que ça y est, maintenant, la saison se termine, faut attendre septembre maintenant.
Alors pas forcément.
Non, ils peuvent venir dans les salles directement.
Alors il y a des salles qui restent ouvertes. Qui font des entraînements pendant l'été. Il y en a une à Paris, d'ailleurs, le PSBDF.
Donc ça, c'est marqué sur le site des fédérations, on peut trouver
facilement. Voilà, ils vont voir le site de la fédération. Pour l'Île-de-France, ils vont voir le site de la Ligue Île-de-France. Chaque organe déconcentré de la fédération, en règle générale, a son site avec les informations. Après, ils peuvent regarder aussi au niveau de la mairie si ça existe. Il y a aussi des entraînements ponctuels l'été. Nous, on fait aussi, cette année, là, je ne sais pas quand est-ce que ça va démarrer, mais on a un ça va de plage un petit peu.
Ah bien.
Un peu.
Ah, il parle de plage.
Tournée, ben voilà.
On en a parlé tout à l'heure.
On tourne sur les stations balnéaires avec des démonstrations, des initiations, ce genre de choses. Il y a une présence partout. Il y a un club de salle de boxe française, il y a une présence sur les forums de rentrée des associations en règle générale. En début septembre.
C'est un sport qui est cher et au niveau de l'équipement, on le trouve facilement?
Non, c'est pas. Après, ça dépend des clubs. Hein,
la moyenne, c'est combien? La moyenne, la fourchette?
Je dirais que c'est peut-être maximum 200 euros. Enfin,
ouais,
200
donc, c'est un score pour la licence, pour s'inscrire dans les compétitions.
Voilà.
Après, il y a quoi? Il y a une paire de chaussures qu'on trouve facilement?
Alors au départ, quand les gens ils pratiquent en loisir, ils ne sont pas obligés d'avoir des chaussures de boxe. Hein. Après, mieux on est équipé et plus vite on progresse. Parce que les chaussures de boxe, par exemple, puisque nous, on a des coups de pied, il faut pivoter. Ah oui. Sinon, le genou, il fait des torsions et on peut s'esquinter. Donc forcément, ces chaussures, elles ont des semelles lisses. Donc forcément, ça facilite ce mouvement qui est fondamental pour certains coups de pied. Donc forcément, le fait d'avoir des chaussures spécialisées, ça augmente la sécurité dans la pratique. Ouais. Et puis ça permet de progresser plus vite. Après, une paire de... Bon, je ne vais pas citer deux marques, mais il y a des grandes entreprises, hein, des grandes marques qui font des kits à 35 euros. Vous avez une paire de gants, des protège-tibias, protège-dents, protection pubienne, tout à la fois.
Oui. Et c'est un sport où on se blesse souvent ou pas plus que les autres sports de combat?
Non, on se blesse ouais, beaucoup moins que dans les sports co, par exemple.
Oui.
Ouais, c'est assez paradoxal, mais et en même temps assez logique, puisque les gens, ils s'entraînent pour éviter justement les coups. Donc voilà, s'ils sont bien entraînés, ils n'en prennent pas tant que ça en fin de compte.
La nécessité de l'accompagnement et pas seulement en pratique libre.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. La pédagogie, l'accompagnement, la prévention.
Alors il y a ça, et puis surtout nous, on a comment dire une histoire qui date maintenant.
Bien sûr.
Donc on a quand même des entraîneurs qui ont de l'expérience. On a tout un travail fédéral, même avant nous, avant qu'on arrive là. Bon, ceci dit, moi j'ai déjà été à la fédération aux années 90, mais il y a toujours eu comment dire un travail d'accompagnement. Qui s'est au fil du temps précisé, amélioré forcément avec des gens forcément qui ont produit aussi des livres. Il y a eu des émissions, pas assez hein, pour selon nous, bien sûr. Mais bon, voilà quoi. Il y a quand même comment dire une expérience et beaucoup. C'est pas pour rien que la salle de boxe française est pratiquée dans les écoles,
oui,
dans les grandes administrations.
J'allais vous demander, est-ce que les écoles, les collèges viennent parfois voir des séances d'initiation comme ça se fait des fois?
Alors déjà, dans les collèges, il y a carrément des sessions, des sections UNSS
qui sont
dédiées à la salle de boxe française. Il y a dans la formation des professeurs de sport, et j'en sais quelque chose parce que je suis prof en STAPS, il y a la boxe française. La salle de boxe française est dans toutes les administrations au niveau de la formation. Pour les championnats de France cette année, nous avons invité 500 enfants de l'UNSS. Nous avons des athlètes de haut niveau qui sont partis remettre les récompenses aux jeunes vainqueurs. Vainqueurs ES aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. On a bien pris conscience de l'importance d'être présent toujours de mieux en mieux, j'ai envie de dire, de plus en plus et de mieux en mieux, autant au niveau des scolaires qu'au niveau des universitaires. On a eu un très beau championnat de France UNSS, un très beau championnat de France FFSU cette année. Et on a, là aussi, des ambitions de développer, de pouvoir former des arbitres au sein même des universités, notamment, et puis de maintenir cette présence dans les examens et les formations des profs et des différentes administrations.
Très bien. Mais merci Jean-Pierre Mazois d'avoir été notre invité d'une émission bien dense et puis bien riche. Hein,
oui.
Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Marius, tu as participé à ta première. Tu vois.
Merci à toi.
Voilà. Alexandre, Vanessa, on va souffler un tout petit peu puis on se retrouve pour la dernière de la
avec
saison
plaisir.
À
avec
partir
plaisir.
De 19h. Et merci à Jason hein, pour l'immense travail pour cette émission. La pause musicale de fin d'émission et à partir de 19h, on se retrouve pour la dernière de la saison. Merci
à tout à l'heure.
Merci à Philippe pour votre invitation. En tout
merci.
Cas.
Merci.
Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Oh, yeah, yeah.
Tu ne vas pas me manquer. Toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du nu, moi. Je ne peux pas supporter. T'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la.
Qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vive, vive, bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, oui.
Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Ouais. Les pipos, oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première, merde, merde.
Si t'as les critères, ça me va. Pas dans les délires de Vice. Tu penses assurer, c'est bon.
C'est bon.
Tu peux déposer ton CV par mail.
Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vive, vive, bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui.
Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos. Oh yeah. J'suis tombé la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde.
Chacal t'a bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts.
mais à qui tu vas la faire? Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire? Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental.
À qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire?
Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo. Ouais, les pipo. Oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Merde.
Yeah.